Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 22 juin 95.
Être en acte est un. Vous voyez, l'unité de la substance, l'unité de l'acte, c'est pas la même chose. Vous avez la multiplicité des accidents. Vous avez la multiplicité de l'être en puissance. L'être en puissance est divisible. Il n'est pas indivisible. nombre apparaît comme ce qui constitue l'être mathématique. Est-ce que l'un n'est-il pas aussi le constitutif de l'être mathématique? Au moins au niveau des nombres. Qu'est-ce qui est premier dans le nombre? C'est l'un. C'est pas l'être. Quand vous comptez, vous dites pas l'être, hein? Non. Vous dites l'un. C'est curieux. Comment ça se fait? Vous voyez, toutes ces expériences de l'un et du multiple. L'un est source d'addition. C'est l'un qui permet d'additionner les réalités. L'un quantitatif. Comptez vos sous. Vous ne comptez pas l'être. Vous comptez vos sous. Vous comptez les cailloux. Vous comptez les briques. Vous comptez les pierres. Vous comptez les pommes de terre. Et les pommes. C'est très curieux, ça. Et je n'additionne pas l'être. Ah oui, je pourrais dire un être, deux êtres, oui. Mais c'est pas l'être directement, c'est toujours l'être. Donc voyez, essayez de comprendre toute l'expérience de l'un. Toute l'expérience de la diversité des êtres implique une expérience particulière de l'un. Et il y a cette chose très particulière, c'est que en mathématiques, l'un apparaît avant l'être. Vous ne vous occupez pas de l'être, vous vous occupez de l'un. Qu'en logique, l'un et le multiple s'unissent. D'autre part, apparaît toujours par rapport au réel, apparaît toujours comme accompagnant le réel. Est-ce un ou le multiple? Après toutes ces expériences, vous vous posez la question, est-ce que l'un est un principe? De la quantité, dans l'ordre de la qualité, un n'est-pas-principe. Pourquoi? Parce que la qualité est du plus et du moins. Donc si elle est du plus et du moins, elle n'est pas un. L'un est opposé du multiple. Alors, ça c'est très important à saisir, parce que vous saisissez là tout de suite les deux structures de la pensée. Il y a une structure de pensée dialectique, il y a une structure de pensée analogique. Alors, essayons de creuser un peu ça, parce que c'est peut-être ce qui est le plus important à saisir.
Avant
entendu dire qu'elle est une. Je saisis une réalité vivante avant de dire qu'elle est une. Je saisis mes activités dans leur unité. Je saisis mes activités comme mes activités volontaires avant de dire leur unité. Là, j'en appelle à l'expérience. Donc, si je suis en présence d'une philosophie réaliste qui veut aller le plus loin possible dans la réalité, ce qui est plus profond que de dire ceci est un, ceci est un s'ajoute à ceci qui est. Le langage en est le signe, mais l'expérience que j'ai me le montre. Comment se fait-il que je puis arriver à dire que l'un est au-dessus de l'être ? Platon, tout le néoplatonisme, toute philosophie, mon intelligence peut-elle arriver à dire cela ? N'oublions pas que dans le domaine de la quantité, l'un est premier. Dans le domaine mathématique, le mathématicien sait très bien ce que c'est que l'un. Plus exactement, il ne réfléchit pas beaucoup pour savoir ce que c'est que l'un, il l'affirme. Il ne sait pas ce que c'est que l'un. C'est très curieux. Mais l'un est ce qui est indivisible. Tant que vous pouvez diviser, vous n'êtes pas en face de l'un. Vous êtes en face de quelque chose qui peut être divisé. Et dès qu'il est divisé, il est deux. Donc il n'est plus un. Et donc, l'un la division que vous connaissez. nier. Au-delà de la mesure, il y a la négation. Ceci n'est pas divisible. Et je connais l'un en disant « ceci n'est pas divisible ». Je le connais par la division, par la négation. Ce n'est pas divisible. Si je connais l'un par la négation, comme la négation est un être de raison, c'est par l'être de raison que je connais l'un. Et donc, vous voyez que ce qu'il s'agisse de la mesure pour les mathématiques, qu'il s'agit de l'être de raison pour la connaissance logique ou la connaissance critique, c'est toujours ma manière de connaître qui me donne mon objet. Je ne suis donc plus en face d'un réalisme absolu, mais je suis en face de la subjectivité transcendantale qui me donne mon objet. Il y a deux manières de connaître la réalité en me donnant mon objet, la mesure, la négation. Et je connais l'un comme ce qui est au-delà de toute ma manière de connaître, donc comme l'absolu qui s'impose à moi. L'absolu n'est plus ce que je connais, mais ce que je ne connais pas. Puisqu'il est indivisible. Et je connais en divisant. Donc il est au-dessus. Et c'est l'absolu. Ah, vous voyez comme c'est curieux. Dans le réalisme, l'absolu, c'est ce que je connais en premier lieu. Dans le néoplatonisme, l'absolu, c'est ce qui échappe à ma connaissance. Ce qui n'est pas divisé. Ce qui est au-delà de ma mesure. Ce que mon filet prend, je l'appelle poisson. Mais tout ce que mon filet ne prend pas, je ne sais pas ce qu'il est. Pour celui qui pêche, c'est très net. Il ne connaît que ce que son filet prend. C'est donc par sa méthode qu'il connaît l'objet et qu'il connaît la réalité. Et ce n'est pas la réalité elle-même qui se manifeste. Vous avez donc là deux attitudes tout à fait fondamentales par rapport au problème de la connaissance, de l'intelligence, où vous saisissez ce qui détermine mon intelligence, où vous saisissez ce par quoi je connais. D'un côté, c'est le néoplatonisme, et le platonisme, de l'autre côté, c'est l'aristotélisme. Et si c'est ce par quoi je connais qui est premier, c'est ce par quoi je divise que je connais quelque chose de nouveau. D'où la dialectique. L'âme de la dialectique, c'est la division qui permet l'opposition. Je ne dirai jamais que l'âme de la connaissance analogique, c'est la division. Non. C'est aller toujours plus loin pour saisir au-delà de la diversité ce qu'il y a de premier. C'est ça le propre de la connaissance analogique. Vous voyez, c'est très proche au point de départ. C'est très proche. La division apparaît dans la connaissance dialectique comme l'âme de la dialectique, ce qui détermine plus de moi d'aller plus loin. Mais je ne m'en sers pas pour connaître, c'est pour déblayer. Au-delà de la diversité, je saisis ce qu'il y a de commun. Oui, la diversité, c'est pas moi qui l'a fait, elle est donnée dans la réalité. Et donc la division n'est pas ce par quoi je connais. La division, je la constate. Et je la constate pour ne pas m'y arrêter. Parce que je vois la diversité. Et la diversité des réalités, la diversité des qualités ne satisfait pas mon intelligence. Je dois saisir l'autre là, ce qui est un. Oui, je fais ça pour que vous compreniez combien le problème de l'un et du multiple est fondamental pour la critique. Au fond, ma manière de regarder l'un manière de connaître. Il faut dépasser ma manière de connaître pour que je sois intelligent, pour saisir l'être. Quand Satan m'a dit, primo, cadit in intellectus ens, Satan me montre bien que ce qui est premier dans mon intelligence, c'est saisir ce qui est. Ce qui est premier dans ma manière de connaître, c'est l'un. Le platonisme demeure lié à ma manière de connaître. C'est pour cela qu'on l'aime tant. L'aristotélisme dans le réalisme dépasse ma manière de connaître pour saisir ce qui est l'être. C'est pour ça que c'est difficile. Vous savez bien, il y a un bien sensible qui est tout proche de moi. Celui-là, je n'ai qu'à le cueillir. Carpe diem. Carpe diem, hein, qui veut dire prends tout ce qui vient directement à toi. Prends tout ce qui vient et utilise ça tout de suite. Jouis de ça. Ne cherche pas quelque chose de difficile. Parce que tu n'auras rien. Donc il y a le concupiscible et l'irascible. Le concupiscible prend ce qui est code naturel à nous. L'irascible cherche un bien au-delà qui est difficile. C'est très curieux. Le développement de mon intelligence présuppose un irascible. Le développement du platonisme dépend d'un concupiscible. Auprès du affectif. Je saisis par le problème de l'un et du multiple. Donc, je vous lis ce que Saint-Thomas nous dit pour que vous essayiez de mieux saisir. Saint-Thomas se pose la question. important. Ce n'est pas traduit, vous n'allez pas le regarder beaucoup. Dans le commentaire des métaphysiques, il souligne que la division que présuppose la ratio unius n'est pas la division de la quantité continue qui est présupposée à l'un, principe du nombre, mais la division que cause la contradiction selon que cet être-ci et celui-là sont dits divisés du fait que celui-ci n'est pas celui-là. Cette division, donc, c'est la négation. La négation est impliquée dans l'un. La négation n'est pas impliquée dans la connaissance de l'être. Cette division, si radicale, sépare et implique une détermination et une négation. Celui-ci n'est pas celui-là, ce qui suppose l'opposition de l'être et du non-être. Mais cela ne veut pas dire que l'un soit une négation absolue. Il est plutôt négation ou privation de division dans l'être. Alors voici ce que saint Thomas nous dit. L'un est l'être non divisé. Est non divisum. Or, la division appartient à la multitude qui s'oppose à l'un. Il revient donc à celui qui considère l'un de considérer la négation, la privation. Or, la négation est double. Il y a une négation pure et simple, par laquelle on dit que ceci n'est pas attribué à cela. Hoc non est illi. Il y a une autre négation, au niveau du genre, in genere, par laquelle on ne nie pas quelque chose absolument, mais dans les limites d'un certain genre. Ainsi, aveugle ne s'applique pas de façon absolue à ceux qui n'ont pas la vue, mais à ceux qui, dans le genre animal, possèdent par nature la capacité de voir. La négation absolue peut se vérifier aussi bien du non-être qui est apte à supposer une affirmation qu'à l'être qui normalement devrait avoir et qui n'a pas. Enfin, c'est la différence entre la privation et la négation absolue. Mais l'homme n'a pas d'aile. Est-ce que c'est une privation? Non, puisque sa nature n'implique pas d'avoir des ailes. Tandis qu'un petit oiseau qui naît n'ayant pas d'aile, c'est une privation. Un être humain qui naît avec un bras en moins, c'est une privation. Parce qu'il est inscrit dans sa nature qu'il est hideux. Mais, donc la privation, c'est la négation par rapport à une forme qu'on est capable d'avoir. Tandis que la négation pure, c'est au niveau de l'être. Ceci n'est pas. Alors, c'est comme ça que saint Thomas arrivera à dire ceci. Et c'est l'être, puis la division, puis l'un, qui est privation de division. Et en dernier lieu, la multitude, qui est constituée d'unité. Car bien que les choses divisées soient multiples, elles n'ont cependant pas la raison de multiple qu'après qu'il a été attribué à celui-ci et à celui-là d'être un. Donc pour saint Thomas, ce qui est premier dans l'intelligence, c'est l'être. Ce qui est second dans l'intelligence, c'est la division. Ce qui est troisième dans l'intelligence, c'est l'un. Alors ça, c'est un regard critique, mais c'est intéressant. Parce que c'est là où saint Thomas fait la critique la plus nette du néoplatonisme. Donc quand on dit saint Thomas est néoplatonicien, c'est faux. Puisque pour un néoplatonicien, l'un est l'absolu. Pour saint Thomas, l'un je ne peux atteindre la réalité que par ma manière de connaître. Donc, je saisis au-delà de l'être, l'un par la négation. La négation est un acte de raison. Vous voyez ? Ma manière de connaître, c'est la raison. L'intelligence, c'est l'objet pur de l'intelligence, c'est l'être. Mais si je ne saisis plus l'objet pur de mon intelligence, mais que je saisis la réalité à travers ma manière de connaître, ma manière de connaître dans ce cas-là de plus simple, c'est la négation. L'homme est un être qui est capable d'affirmer et de nier. Ça, c'est propre de ma manière de connaître. Mais ce n'est pas le propre de l'intelligence. Vous n'allez pas dire que Dieu affirme ou nie. Non, Dieu affirme toujours. L'intelligence de Dieu n'implique pas la négation. Si tu restes comme ça, je comprends que Dieu, c'est la contemplation de la contemplation. Tandis que l'être intelligent qui est l'homme affirme ou nie sa manière de connaître. Si donc je n'arrive pas à dépasser ma manière de connaître pour avoir une objectivité pure, je m'arrêterai à la négation. La négation est plus proche de moi que l'affirmation. Vous comprenez très bien. Parce que l'affirmation présuppose quelque chose qui est antérieur à moi. Tandis que la négation ne présuppose rien du tout d'antérieur à moi. Pourquoi le gosse aime-t-il tellement nier ? Et pourquoi nous restons toujours des gosses en aimant nier ? On aime de nier. Parce qu'en niant, vous vous affirmez. Vous voyez ? Dans une discussion, tout le monde est d'accord. Vous dites, ah non, je ne suis pas d'accord, non. Comme au-delà de l'objet que tout le monde accepte. Alors si vous dites que vous ne pouvez connaître la réalité qu'à travers votre manière de connaître, c'est par la négation que je saisis la réalité. Or, qu'est-ce qui apparaît en premier lieu ?